On poursuit à Accélibre aujourd'hui avec Virginie Lassalle, qui est professeure en design à l'école, en design d'intérieur à l'École de design de l'Université de Montréal, membre du laboratoire d'études de l'architecture potentielle, et avec qui on va discuter aujourd'hui de design pour les personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Bonjour, Madame Lassalle.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va très bien, vous-même?
Oui. Bien, tout d'abord, la première question que je me demandais, c'est comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser comme ça au design de milieu de vie pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme?
Alors, mon intérêt, on pourrait dire que ça remonte au moment où j'ai fait une autre recherche il y a quelques années qui questionnait les environnements spécialisés pour les personnes aînées, tout particulièrement les CHSLD. Donc, mon intérêt vient de la manière dont on conçoit des milieux de vie spécialisés.
On va peut-être s'en reparler une autre fois de ça.
Oui, d'accord.
C'est très d'actualité.
Oui. Donc, c'est des milieux de vie pour des gens, des personnes qui ont une certaine vulnérabilité, qui sont quelquefois sous-représentées pour la conception des lieux qui leur sont destinés. Donc, de là est venu, je pourrais dire, un modèle de compréhension de ces milieux de vie qui intègre la signification du chez-soi, puis qui veut apporter davantage de signification dans ces milieux qui en manquent fréquemment. Et puis, par la suite, la Fondation Véro et Louis s'est intéressée à mes travaux et a voulu savoir comment, finalement, cette approche-là pouvait servir la conception de la première maison qui va ouvrir prochainement.
Quand on pense aux personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, on pense d'abord peut-être aux personnes qui sont hypersensibles. Alors, on imagine automatiquement avoir quelque chose de très calme, voire beige, là. Mais il y a aussi des personnes hyposensibles qui ont un TSA. Tout d'abord, c'est quoi la différence?
C'est une très bonne question. Puis moi, quand on me pose cette question-là, je veux tout de suite préciser que je ne suis pas une spécialiste de l'autisme, mais des environnements, de la conception des environnements bâtis. Donc, en fait, les personnes autistes, comme toutes les autres personnes, ont des sensibilités, des préférences et des réactions plus ou moins grandes à leur environnement. Ce qu'on observe chez les personnes autistes, c'est qu'elles ont des réactions qui sont quelquefois exacerbées, très amplifiées, que ce soit en réaction à quelque chose qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Et ils ont des besoins, semble-t-il, d'être stimulés davantage ou apaisés davantage que la majorité des gens. Surtout parce qu'elles ont moins la possibilité, semble-t-il, de s'auto-réguler puis de s'adapter aux conditions qui les entourent. Je ne sais pas si je m'exprime clairement.
Oui, tout à fait. La question, donc, c'est si on doit créer un milieu de vie où les deux types de personnes, celles qui ont besoin d'être apaisées et celles qui ont besoin d'être stimulées, vont cohabiter. Comment est-ce qu'on fait pour que les deux choses puissent coexister?
C'est une très bonne question. Alors, ce qu'on a tendance à faire, une bonne piste de réponse, c'est de faire des lieux qui sont très flexibles et qui permettent une adaptation aux besoins, aux préférences des gens selon qui occupe un lieu, à quel moment. Donc, par exemple, dans un lieu destiné spécialement aux personnes autistes, on aura en effet souvent une base relativement calme, apaisante, assez épurée, et on pourra venir ajouter des éléments, modifier la lumière, les vues, ajouter de la couleur, par exemple, avec du mobilier, des éléments qui s'ajoutent, des objets qui s'enlèvent. Donc, il y aura cette possibilité de manipuler les composantes, les caractéristiques de l'espace selon les besoins du moment.
D'accord. Et là, est-ce qu'il y a aussi des éléments de sécurité dont il faut tenir compte si on parle peut-être, dans certains cas, de personnes plus ou moins autonomes?
Oui, il y en a plusieurs. Par contre, dans le cadre de l'étude des recherches que je fais, ça porte moins directement sur les questions de sécurité parce que c'est quand même des paramètres qu'on maîtrise assez bien. Disons que la question qui nous intéresse davantage, c'est le vécu des personnes autistes dans les lieux. Donc, les questions de sécurité arrivent peut-être dans un second ordre, si on veut, si on ordonne les critères qui nous intéressent le plus.
Mais parlons justement là, de ce projet de recherche pour lequel vous avez récemment obtenu des fonds. C'est quoi l'objectif de la recherche, au bout du compte?
Oui, le titre de notre recherche, c'est « Concevoir des lieux avec, par et pour des personnes autistes ». Donc, l'idée, c'est d'abord et avant tout d'élaborer un dispositif de conception, vraiment de conception de l'environnement bâti, qui intègre des personnes autistes de différentes manières pour essayer de mieux cerner, de mieux comprendre avec plus de finesse leur rapport à l'environnement bâti, leurs besoins, leurs préférences, leur expérience particulière des lieux.
Et on dit par et pour, donc c'est qu'il y a aussi des personnes ayant un TSA qui seront consultées?
Exactement. Non seulement consultées, on essaie vraiment de les intégrer à type de partenaires, de collaborateurs de conception. Donc, si je peux brièvement vous dire en quoi consiste l'étude, oui, un petit instant pour ça. Il y a trois volets principaux dans l'étude. Le premier volet, ça consiste en une évaluation post-occupationnelle. Autrement dit, c'est qu'on va aller évaluer un environnement existant pour voir de quelle manière il est vécu par les gens qui l'occupent. Et ce sera la résidence de la Fondation Véro et Louis lorsqu'elle aura été habitée pendant une certaine période de temps.
D'accord.
On ira rencontrer les gens qui l'habitent pour collecter des informations sur leur expérience des lieux. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième étape, ça se déroule en atelier de conception à l'Université de Montréal. Alors, en aménagement, en conception de l'environnement bâti, on a une formule pédagogique qui s'appelle l'atelier de design de conception, qui consiste à donner un projet fictif aux étudiants qui élabore toutes les étapes du processus de projet pour finalement faire une proposition de design. Donc, par exemple, cette session-ci, je demande à mes étudiants de concevoir un centre de jour pour personnes autistes. Ils vont se mettre en équipe de deux, ils vont passer à travers toutes les étapes pour faire une proposition. Dans le cadre de notre projet de recherche, des personnes autistes vont être intégrées aux équipes de conception à l'Université de Montréal pour vraiment donner leur avis, concevoir, créer avec les étudiants. Et ça, ça implique que non seulement le rapport va être en lien avec le résultat, la proposition de design, mais aussi dans le processus de conception lui-même, comment on conçoit avec une personne autiste. Et la troisième étape, au terme de ces deux volets-là, c'est d'élaborer une plateforme en ligne qui veut utiliser les productions des équipes de co-conception personnes autistes étudiants. Je ne sais pas si vous avez un peu en tête le genre de visualisation 3D là, qu'on peut avoir, des perspectives assez réalistes des lieux qu'on conçoit en architecture, en design. Donc, on a des vues comme ça là, qui projettent ce qu'on voudrait concevoir. Donc, ce genre de vue-là qui sera utilisé sur une plateforme en ligne dans lesquelles on varierait, par exemple, les ambiances lumineuses, les matériaux, les vues, la volumétrie des espaces, pour aller recueillir de l'information sur les préférences des personnes autistes par rapport au lieu qu'on leur propose. Donc ça serait la troisième étape, oui.
Et au bout du compte, ce serait que ce genre d'outils-là soit accessible aux personnes qui ont à faire du design pour les personnes ayant un TSA?
En fait, on veut que notre processus de conception avec les personnes autistes puisse, oui, informer, par exemple, une firme de design ou d'architecture qui conçoit pour des personnes autistes, qu'ils prennent appui sur notre démarche dans laquelle on aura fait des constats, comment bien concevoir, des stratégies d'intégration, tout ça, pour qu'elles puissent être davantage entendues, qu'elles aient davantage leur mot à dire dans ces processus-là. Et l'autre chose, c'est de connaître avec plus de finesse, mieux comprendre leur rapport à l'environnement bâti. Et ça, c'est des informations qui peuvent servir autant les concepteurs qu'éventuellement des décideurs, des gestionnaires, des gens qui veulent adapter leur lieu d'habitation pour les gens qui ont des besoins particuliers comme les personnes autistes.
Merci beaucoup, Mme Lassalle. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant déjà qu'on parle de milieu de vie plutôt que juste de créer un... Ça prend plus qu'un toit au-dessus des têtes quand on a des besoins particuliers. Et on risque de se reparler pour la question des CHSLD puisque je trouve que c'est quelque chose qui est aussi... avec la crise sanitaire qu'on vit actuellement, à laquelle il serait important de réfléchir. Alors, merci beaucoup, Mme Lassalle. À une prochaine fois.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.